Jeffrey Hawkins, bonjour.
Bonjour.
Voilà un an que Donald Trump est à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui a changé dans la politique américaine en Afrique ?
Bon, il faut voir d'abord globalement qu'est-ce qui a changé dans la politique américaine. Je viens de faire un exercice qui est assez intéressant. L'administration Trump, au mois de décembre, a émis sa stratégie globale, ou ce qu'on appelle en anglais « the National Security Strategy ». Et aujourd'hui, j'ai comparé juste la table de matière de cette stratégie avec la stratégie de l'administration Obama de 2015. Donc, dans 2 années, on va d'une stratégie Obama qui est très variée, qui parle de l'antiterrorisme et de la sécurité, mais aussi des valeurs américaines, de la démocratie, du besoin de combattre le changement climatique et autres, à une stratégie du président Trump totalement concentrée sur la défense de l'Amérique, la défense des frontières, la défense des marchés américains et un engagement qui est basé totalement sur une approche « America first ». Donc en Afrique, tandis que à l'époque où j'étais ambassadeur, donc dans la première année de mon séjour à Bangui, on était très concentré sur un engagement sur l'énergie, ce qu'on appelait Power Africa. On avait un fort engagement humanitaire, surtout en Centrafrique où on avait bien besoin. Un engagement sur la jeunesse africaine. On voyait par exemple le président Obama chaque année inviter des centaines de jeunes Africains à Washington et les a rencontrés personnellement. Un business forum avec l'Afrique, donc on voulait vraiment nouer un dialogue avec les hommes d'affaires africains. Maintenant, ça, pas trop. Et si l'administration Trump parle de l'Afrique, et il en parle très peu, c'est beaucoup plus dans une optique sécuritaire, Boko Haram, etc. Donc c'est une emphase sur la sécurité.
Jusqu'en août dernier, vous étiez l'ambassadeur des États-Unis à Bangui, mais depuis vous avez quitté le corps diplomatique. Pourquoi ?
J'ai quitté premièrement parce que je me trouvais en profond désaccord avec la politique de l'administration Trump et aussi avec l'approche du président personnellement. Et j'avais du mal à me retrouver dans ce nouveau monde, donc dans une approche que je viens de vous décrire. Et il y avait un nouveau secrétaire d'État, donc Rex Tillerson, qui voulait, entre guillemets, réformer le département d'État, mais la réforme que j'ai vécue moi, personnellement, comme diplomate américain, était ne pas nommer des diplomates à des postes, c'était couper les budgets. Il a proposé une coupe de 30% que le Congrès américain républicain n'a pas accepté. Je me trouvais dans un département d'État qui n'avait pas de voix à Washington, donc le président était côtoyé par des généraux, il écoutait beaucoup le département de la défense et pas du tout le département d'État. Dans ces conditions-là, j'estimais que je pourrais peut-être chercher mon bonheur ailleurs.
Et y a-t-il beaucoup d'autres diplomates américains qui ont changé de métier depuis 6 mois ?
Énormément. Et pour ceux qui sont peut-être un peu haut placés, vraiment c'est difficile. Et pour moi, être le représentant personnel du président Trump, pour moi c'était difficile.
Et il n'y a toujours pas à l'heure actuelle de sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, c'est cela ?
Oui, c'est très problématique. Et pendant très longtemps, on n'avait même pas un sous-secrétaire d'État par intérim. Maintenant, on en a. On a rappelé un diplomate très expérimenté qui s'appelle Dan Yamamoto, qui est très bien, mais il n'a pas le poids, n'étant pas formellement nommé au poste, qu'un vrai sous-secrétaire aurait.
Quand vous écrivez dans cette tribune au journal Le Monde que le leadership américain est menacé dans le monde, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop alarmiste ?
Bon, c'est l'histoire qui va nous dire, mais je peux dire que j'ai constaté, moi, un fort recul de la présence américaine, de l'influence américaine à travers le monde, que ce soit en Europe, où l'alliance transatlantique existe, mais où le soutien de Washington est peut-être moins fort que par le passé, dans d'autres pays, certainement en Afrique. Juste pour prendre le cas de la Centrafrique, quand j'étais ambassadeur sous Obama, on avait un très fort engagement, même à un point qui m'étonnait, parce que je me suis dit, tiens, c'est un petit pays, c'est un pays qui est confronté à d'énormes problèmes. Washington va être trop occupé avec la Chine, la France, etc. On ne va pas s'occuper de nous. Mais contrairement à ce que j'aurais pensé, cette administration-là était vraiment engagée. Tandis qu'après le départ du président Obama, on entendait très peu de Washington.
Alors vous dites que les militaires ont pris le pas sur les diplomates à Washington et que d'une façon générale, Donald Trump se désintéresse du continent africain. Mais en septembre dernier à New York, il a déjeuné avec 9 chefs d'État africains et il s'est dit profondément préoccupé par la montée de la violence dans plusieurs pays, et notamment au Congo-Kinshasa et dans cette Centrafrique que vous connaissez bien.
Oui, justement, je viens de relire ses remarques, très brefs d'ailleurs, et si je ne me trompe pas, c'était le déjeuner où il a fait mention de l'État l'État de Nambia qui n'existe pas.
Il a confondu la Zambie et la Namibie.
Je plaisante, mais le fait qu'une fois à New York, et même pas en Afrique, que le président consent à avoir quelques chefs d'État africains, c'est très bien. Mais ses remarques étaient, pour moi, ses propos étaient plus ou moins vides de contenu. Et en tout cas, on n'a pas une vraie politique américaine vis-à-vis du continent africain.
Il n'y a pas de sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, mais il y a une ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, qui est allée à Kinshasa en octobre dernier. Elle y a rencontré Joseph Kabila et quelques jours plus tard, les autorités congolaises ont promis que la présidentielle se tiendrait avant la fin 2018. Ce n'est pas une simple coïncidence, non ?
Moi, je ne pourrais pas faire de commentaires là-dessus, mais ce qui est certain, c'était l'emphase sur les droits de l'homme, sur la gouvernance, la démocratie, c'était beaucoup plus une priorité dans l'administration présidente que celle-ci.
Dans l'administration Obama ?
Oui.
En Centrafrique, quand vous étiez en poste, les États-Unis étaient pour le maintien de l'embargo sur les armes. Mais aujourd'hui, votre pays accepte que les Russes livrent des armes à l'armée centrafricaine. Ça vous inquiète ou pas?
Pour moi, non. Il nous semblait logique si on allait justement former une armée nationale pour prendre le relais aux Nations Unies, que cette armée soit armée. Et donc le président, le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et autres, ils ont plaidé très longuement pour ça. Et
avec succès.
Avec succès. Et pour moi, c'est tout à fait normal.
La MINUSCA coûte quelques 1 milliard de dollars par an et pourtant les massacres continuent en Centrafrique. Est-ce qu'il ne faut pas la supprimer?
Absolument pas. Pour moi, la MINUSCA est absolument essentielle. Pour moi, la MINUSCA est très bien dirigée. Parfait Onanga est un représentant spécial remarquable et c'est un diplomate gabonais qui est vraiment exceptionnel. Le général Bala Keïta qui est commandant des forces et aussi un général sénégalais qui a beaucoup de talent et beaucoup d'énergie. Mais on leur a confié une tâche qui est quasi impossible. C'est pas pour autant qu'on ne devrait pas tenter d'accomplir cette tâche. Il y a des problèmes avec des contingents, il y en a qui sont beaucoup plus performants que d'autres. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec 12 000 hommes dans un pays qui a la même taille que la France et la Belgique ensemble? Je veux dire, c'est impossible. Un pays qui est totalement divisé, un pays où l'État n'existe pas, et on pourrait même dire que l'État n'a véritablement jamais existé, c'est une très grosse tâche. Et s'il y a des violences, c'est regrettable, mais c'est pas pour autant qu'on doit supprimer la MINUSCA, parce que sans les Nations Unies, il n'y aura rien en Centrafrique.
Tout le monde a été très surpris par la décision de l'administration américaine d'interdire l'entrée des États-Unis aux ressortissants tchadiens pour manque de lutte contre le terrorisme, alors que le Tchad abrite le siège de la force Barkhane. Comment expliquez-vous cela?
Je n'ai pas d'explication. J'ai été aussi étonné et mystifié par cette décision que tout le monde. Je ne sais pas. Et peut-être que l'administration Trump avait accès à des informations que moi, en tant que citoyen lambda, n'a pas. Mais pour moi, cette décision, je ne comprenais pas. J'avoue que j'étais moi-même étonné par cette décision.
Le refus des États-Unis de Donald Trump de participer au financement du G5 Sahel, vous le comprenez?
Non, pas du tout. Encore une fois, je pense que ces questions sécuritaires et autres sont extrêmement importantes et un engagement américain est nécessaire.
Jeffrey Hawkins, merci.